parfaitement prêt.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, bienvenue à vous, nous sommes à l'écoute, vous êtes à l'écoute, nous nous écoutons aussi, du Canu Info de ce jeudi 14 juillet 2022. Je suis accompagnée au micro et à la technique par Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir à toi. Ce soir, nous allons parler de l'Iran. Nous parlerons, nous en profiterons pour parler des Nuits de Mashhad. Donc, film iranien. Nous parlerons de Shinzo Abe. Nous parlerons de ses hommages, de ce côté d'extrême droite, de la secte, de Damien Rieu. Enfin, voilà, toute une aventure. Nous parlerons de la notion de héros avec Laurent qui nous parlera de La Nuit du 12, le dernier film de Dominique Moll de The Boys, et puis de Partout Tatis hein, de Trondheim, une petite BD. Et puis on parlera peut-être d'autres choses si on a le temps, mais nous avons des sujets assez longs, il faut le dire. Mais nous sommes donc le 14 juillet, comme je vous le disais, et c'est le jour des balles et des feux d'artifice, mais c'est aussi le jour du défilé militaire. Notre République, il faut bien le dire, n'a quand même que ça à montrer, sa puissance par le canon. C'est bien d'ailleurs ce que nous a répété aujourd'hui notre présidence dans son discours du jour. Augmentons les budgets de l'armée, militarisons la République, des valeurs guerrières encore et toujours. Alors la France fait la guerre en Afrique pour protéger des intérêts soi-disant bien français. Ça continue à alimenter le commerce des armes, c'est facile. Chaque innovation est proposée comme une pépite pour la démocratie. Chaque invention permet de tuer plus, plus loin, mais évidemment pour plus cher. Alors on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a un secrétaire d'État dans ce nouveau gouvernement Borne 2 qui est concerné par une double tutelle. C'est le secrétaire d'État à la jeunesse qui est sous l'autorité de l'éducation nationale et du ministère des armées. C'est une nouveauté, pourquoi? Pas parce qu'il y a ce service national universel que déjà nous haïssons dans cette émission. C'est une entreprise de militarisation de la jeunesse et de la société tout entière, rien de plus. C'est pas vraiment un encouragement à la citoyenneté. C'est ce que souhaitent Monsieur Macron et compagnie. Quant aux commémorations, elles sont choisies, elles ignorent les massacres des militaires, la mort des civils. Certes, c'est une belle date, le 14 juillet, pour aller danser. Mais c'est surtout une date choisie pour une révolution que porte encore notre République. Elle devrait pourtant être, cette journée du 14 juillet, une fête de la liberté, une fête populaire, une fête de la solidarité, et non une fête du nationalisme et une fête de la mort. Un défilé pour voir des hommes et des femmes brandis comme des étendards de la démocratie, c'est quand même une chose curieuse en 2022. À quand des profs, des soignants, des poètes, des caricaturistes, et pourquoi pas des punks et des métalleux main dans la main pour un prochain défilé du 14 juillet? Il faudra démilitariser nos idées, il faut continuer à être antimilitariste, ça sera notre idée du jour.
En même temps, le 14 juillet, c'est l'anniversaire de la première des quelques-unes révolutions françaises. C'est la moins populaire des révolutions. C'est celle où le peuple est avant tout manipulé par la bourgeoisie pour prendre le pouvoir de l'aristocratie. Donc effectivement, il y a 1848, 1871, etc. Il y a des mouvements, d'autres révolutions, il n'y en a pas qu'une, qui ont été bien plus intéressantes en termes de pouvoir du peuple ou d'enlever le pouvoir à ceux qui l'accaparent habituellement et qui l'accaparent toujours d'ailleurs. C'est à moi, on parle de l'Iran ?
Allez, c'est parti.
Alors je commence l'Iran, et vous savez que l'Iran, enfin en tout cas depuis la révolution islamique de 79 et l'installation d'une dictature religieuse, la loi impose aux femmes de porter un voile, un hijab, qui doit couvrir la tête et le cou tout en dissimulant les cheveux. Ces deux dernières décennies, de nombreuses femmes ont bravé cet interdit, notamment dans les grandes villes du pays, en portant le voile de manière un peu légère, en laissant voir notamment la chevelure sur le devant. Si vous avez déjà vu des reportages sur l'Iran, c'est très flagrant de voir ça, alors que c'est pas du tout autorisé. Voire, quelquefois, elles enlèvent carrément leur voile. Depuis quelques semaines, il y a un renouveau de l'activité des patrouilles de la police des mœurs. Une police chargée d'emmerder les femmes et de surveiller qu'elles portent correctement le voile, entre autres, hein, bien évidemment. Donc, fin juin, la police a arrêté plusieurs jeunes filles qui avaient retiré leur voile, ainsi que des organisateurs de différents événements. Et alors, il y a eu notamment un rassemblement de gens qui font du skateboard à Shiraz, dans le sud du pays, et il y avait des spectatrices, ou des participantes d'ailleurs, qui n'avaient pas mis de voile et qui se sont fait arrêter par la flicaille des mœurs, hein, une version machiste, encore plus machiste, des forces de répression. Il y a d'autres exemples, hein, dans le nord de l'Iran, à Mashhad, on en parlera tout à l'heure de Mashhad, la ville a carrément interdit l'accès aux femmes au métro, aux femmes ne portant pas le voile. Plus largement, la police a fermé différents cafés, différents commerces qui acceptaient les femmes non voilées. Donc il y a un durcissement de la situation pour les femmes qui ne veulent pas respecter cette tradition musulmane issue d'un islam rigoriste, bien évidemment. Plus grave, il y a une bataille de médias un petit peu autour de tout ça. On a vu notamment certains médias locaux qui font, alors plutôt les progressistes, qui font état des violences de la part de la police des mœurs contre les femmes. On a par exemple pu lire dans un journal progressiste, je cite, « Ces jours-ci, à la fois dans la rue et sur les réseaux sociaux, nous constatons des scènes amères de policiers traitant violemment des femmes sans hijab. Les cris de ces femmes au moment de leur arrestation résonnent dans nos oreilles et leurs confrontations avec les policiers sont des scènes déchirantes qui font mal au cœur de la nation. » Voilà ce qu'on peut lire dans un journal progressiste. Dans la presse conservatrice, elle, c'est l'inverse, puisque cette presse est favorable non seulement au voile, à l'infériorisation des femmes, etc., et aussi au recours de la force par la police des mœurs contre les récalcitrantes. Puisqu'on a, par exemple, un journal qui dit, je cite, « Pour garantir la sécurité sociale dans le pays, les organisations religieuses doivent élaborer un plan global pour la chasteté. Et le hijab, et le ministère de l'Intérieur doit veiller à ce que toutes les institutions du pays appliquent pleinement la loi du hijab, en fait partie. » Donc c'est Javan, un journal ultra-conservateur pour lui, quand les femmes refusent de porter le voile ou le portent mal volontairement, c'est juste parce qu'elles sont instrumentalisées par les dirigeants étrangers. On rappelle que l'Iran a connu une existence bien plus longue sans voile qu'avec le voile, puisque c'est que depuis 79, alors que la Perse, hein, pour remonter plus loin dans l'Iran, était un pays un poil moins voilé quand même, dirons-nous. Alors, il y a une bataille entre les réformateurs, les dits réformateurs, hein, pour nous, c'est quand même des gens qui seraient carrément à droite, mais c'est la droite contre l'extrême droite, hein, dans cette théocratie, bien évidemment, le reste n'existant quasiment plus. Il y a un militant réformateur et ancien député, là, qui s'appelle Mahmoud Sadeghi, qui a critiqué le gouvernement, et notamment pour l'utilisation de la force et de la violence contre les femmes, en disant... c'est pour masquer autre chose. Et c'est pour masquer quoi? En fait, ça a deux buts, hein, cette bataille pour obliger les femmes à porter ce voile. Le premier, c'est de rappeler de la domination et de la femme, et de la religion et des hommes sur les femmes. Donc ça, c'est le premier but. Et le deuxième, c'est en ce moment très flagrant, de détourner l'attention des médias et de tout le monde des vrais problèmes qu'il y a en Iran. Car l'Iran est en proie, comme beaucoup, à une très grave crise économique, à laquelle se sont rajoutées des tragédies. On pense à l'effondrement d'un immeuble en mai dernier à Abadan. Et tout ça alimente l'exaspération des classes populaires, notamment, et des manifestations, des réactions. Et face à ça, et bien, il faut arriver à détourner l'attention. Et s'acharner sur les femmes, c'est un bon moyen de détourner l'attention. Donc on en est là aujourd'hui en Iran, sur le voile. Mais il n'y a pas que ça. Puisqu'on va parler un peu de cinéma maintenant. Cinéma que les régimes des Mollahs essayent de contrôler un peu plus, ce qui était déjà pas mal le cas. Alors on va parler du film qui s'appelle Leila et ses frères, qui devait sortir ces jours-ci en Iran, qui n'a pas eu de visa d'exploitation. Alors, c'est un réalisateur qui est un petit peu connu, hein, qui s'appelle Saïd Roustaei, je prononce sûrement très très mal, je m'en excuse. Ils lui ont demandé à Saïd Roustaei de corriger son film. C'est comme ça qu'ils ont, c'est le mot traduit directement, corriger, parce que ça respectait pas l'Iran et l'islam, vraisemblablement. Alors, Leila et ses frères, c'est un film qui n'est pas encore sorti chez nous, hein, ça devrait sortir le 24 août prochain. Par contre, le réalisateur est connu, puisque c'est lui qui avait fait l'excellent film La Loi de Téhéran, un film qui était sorti l'été dernier, qui a eu un gros succès en France, autour de la drogue et de la lutte contre la drogue et de la lutte violente, hein, de la part de la police contre la drogue dans la République islamique. Dirons-nous. Donc voilà, alors Leila et ses frères a été projeté au dernier festival de Cannes. Il a remporté un prix, qui est le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique. Un petit prix. Et on va voir pourquoi ça a de l'importance. Donc le ministre de la Culture iranien, Mohammad Mehdi Esmaili, a assuré que l'interdiction du film en Iran était, je cite, conforme à la loi. Hein, donc ça, c'est un journal du gouvernement qui nous rapporte les propos de ce ministre. Ils expliquent qu'ils ont fait une enquête sur le film. Et ça viole des lois, donc le film doit être interdit. Du côté des autres anciens ministres ou ministres, on a notamment l'ancien ministre de la Culture, qui est ultra-conservateur, hein, Mostafa Mirsalim, qui lui aussi est revenu sur le film et a dit c'est un film anti-iranien. Alors pourquoi c'est un film anti-iranien? Parce que, d'après lui, ça profite de tous les outils, je cite, hein, de tous les outils artistiques pour ternir auprès de l'opinion publique les objectifs de la révolution et de la République islamique. Et que ça montre, je cite toujours, une image désagréable de la société iranienne sur la scène internationale. Il faut dire que l'histoire de ce film, c'est le portrait d'une famille pauvre, démunie, au bord de l'implosion, dans un pays au bord de l'implosion, d'ailleurs pas que la famille, dévastée par une crise économique, et il y a une histoire d'or, et ça montre, bon après il y a toute une histoire autour de ça, mais ça montre un Iran qui a une crise économique énorme. Et c'est ça que veut pas le ministre, l'ancien ministre de la Culture, le gouvernement et tous les mollahs, c'est que ça donne une mauvaise image de l'Iran. Sauf que c'est pas une mauvaise image de l'Iran, c'est juste une image réaliste de l'Iran. Voilà. Alors, les acteurs et le principal acteur et la principale actrice avaient fait des interviews lors de leur venue à Cannes et ça avait déjà énervé la presse ultra-conservatrice ou les mollahs. Donc voilà, tout le monde s'y met contre eux, hein, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Grosso modo, en Iran, la pression est permanente en ce moment, et puis depuis 79, on va dire, contre le monde de la culture. Parce que c'est un monde qui avait encore un bout de liberté. Un bout de liberté grâce notamment au cinéma et au prix que le cinéma avait. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs un journal conservateur. Il dit, ils disent, alors le journal s'appelle Amshari, ils disent, les producteurs et les distributeurs de Leila et ses frères ne peuvent avoir le dessus dans la confrontation avec le ministère de la Culture. Et il dit pourquoi? Car ils n'ont pas remporté de prix prestigieux comme la Palme d'Or ou le Grand Prix. Et oui, ils ont eu que ce petit prix là de la Fédération internationale de la presse cinématographique, ce qui fait que ça protège pas le film de sa sorte pour qu'il puisse sortir en Iran. Donc on en est là. Alors il y a une attaque sur les films, sur le cinéma. Alors on l'a vu récemment. On rappelle que le cinéaste célèbre, hein, Jafar Panahi, qui a eu beaucoup de prix ces 20 dernières années, dirons-nous, en Europe et dans l'Occident en général, qui a été arrêté le lundi 11 juillet, donc en début de semaine. Lui, il explique « Mon emprisonnement symbolise le rapt du pouvoir sur l'ensemble des artistes du pays. » Alors, il venait pour soutenir d'autres cinéastes qui avaient été arrêtés un peu plus tôt. Tout le monde en avait un petit peu parlé. Il y avait Mohammad Rasoulov, « L'ours de Berlin pour le diable n'existe pas », un très beau film aussi iranien. Et un autre réalisateur, un peu moins connu, Mostafa Alemad. Donc, eux, ils avaient été arrêtés pour trouble à l'ordre public parce qu'ils avaient parlé de l'incurie des pouvoirs publics après l'effondrement meurtrier, hein, de cet immeuble à Abadan qui avait fait un peu plus de 40 morts. Quoi. Donc Jafar Panahi, il est allé manifester en disant « je ne suis pas d'accord avec l'arrestation ». C'est un truc qui se fait en Iran. Ça beau être une théocratie, une dictature religieuse, il y a un petit espace de micro-liberté. Mais cet espace de micro-liberté, il est variable. Plein de gens bougent et font des choses, faut pas non plus pousser mes mains dans les orties, mais ça bouge un petit peu. Et Jafar Panahi a fait ce qu'il fait d'habitude. Sauf que là, ils en ont profité pour l'arrêter. Faut dire qu'il a été condamné en 2010 à 6 ans de prison. Et là, ils en profitent, on vous arrête. Il avait pas fait sa peine, en fait, il avait été libéré au bout de 2 mois. Et pour calmer le jeu un petit peu, parce que ça s'était un peu trop vu au niveau international. Et là, il dit, voilà, maintenant on t'arrête, tu vas faire tes 6 années de prison. Donc on en est là aujourd'hui en Iran, hein, les prétextes pour arrêter les cinéastes sont très très forts. On pourrait parler d'autres choses encore sur le cinéma, il y a beaucoup d'autres choses en Iran, parce qu'il y a quand même un cinéma iranien qui est très présent à l'international, de très bonne qualité. Et justement, c'est l'occasion de parler du film qui est sorti hier, qui s'appelle Les Nuits de Mashhad.
Oui, d'Ali Abbasi. Hein.
Alors, j'ai pas regardé s'il avait été interdit ou autorisé en Iran, mais je suis sûr qu'il n'est pas autorisé quasiment. Pourquoi ? Parce que le film n'a pas pu être tourné en Iran, bien évidemment. Le cinéaste n'a pas le droit de faire des films en Iran.
Non, alors déjà, il vit en Europe.
Voilà. D'ailleurs, c'est un film franco-danois.
Et puis il y a un financement étranger. Et puis effectivement, il a été tourné à l'étranger, en Jordanie, ce qui est pas anodin non plus d'aller tourner dans un pays qui est pas forcément spécialement ami non plus avec l'Iran sur la scène internationale, mais qui permet assez curieusement face à une royauté qui est pas non plus connue pour sa sympathie avec les droits des êtres humains. C'est assez curieux de voir finalement des auteurs iraniens venir en Jordanie pour tourner. C'est assez drôle en fait.
Oui, il leur fallait une ville qui ressemble à Mashhad, donc une ville d'Iran un peu particulière. C'est une ville où il y a un mausolée central sur l'islam, et il y a une ferveur religieuse.
C'est une ville religieuse, c'est une ville des martyrs. Et si on parle de tueurs à l'araignée, c'est bien parce que aussi tout converge vers ce monument central au cœur de la cité, d'où donc cette expression de l'araignée, parce que on a une vue un moment panoramique de cette ville.
Ça fait toile d'araignée.
Et ça fait toile d'araignée, en particulier la nuit, donc c'est assez spécifique.
Alors tu parles du tueur de l'araignée, puisque c'est un polar en fait, qui raconte cette histoire de ce tueur de l'araignée qui a vraiment existé en 2001. C'était donc quelqu'un fondamentalement religieux, croyant, et qui se mettait à assassiner les prostituées parce que ces femmes représentaient le mal, elles n'étaient pas bien, etc.
Oui, alors c'est un fanatique religieux, faut être très clair.
Dans sa vision du bien et du mal, hein, qui est binaire, ces femmes c'est le mal, donc il faut les tuer.
Et il veut purifier la ville, dégager les prostituées et les droguées femmes. Qu'effectivement c'est aux femmes qui s'en prennent.
Ah bah oui. Forcément. On en parlera tout à l'heure, mais c'est souvent les femmes qui sont visées quand même dans les sociétés machistes. Et donc, on a ce film, très beau film, moi j'ai trouvé ça vraiment très très beau, où c'est une journaliste. Alors, l'enquête avance jamais. Au début, je crois qu'ils en sont à une dizaine de meurtres, et on sent que la police n'est pas ultra motivée, et il y a une journaliste femme qui arrive dans la ville pour faire une enquête et pour faire bouger les choses. Et elle va se confronter donc à la société machiste, notamment la flicaille, mais pas que. Et elle va tout faire jusqu'à se mettre en danger pour faire arrêter le serial killer, on va l'appeler comme ça. Même si
tueur en série, nous disons dans une langue proche de la nôtre.
Le tueur en série d'inspiration religieuse. Et on a ce film qui décrit la société iranienne, qui décrit cette histoire. L'histoire, elle est très prenante. Et puis qui montre plein de choses. Et qui montre notamment l'impact très fort de la religion et du machisme.
Oui, ce tueur, il est joué par Mehdi Bajestani, qui est très très bon en fanatique religieux, père de famille, maçon, qui a placé quand même la religion finalement au cœur de son idée, qui est devenu un rituel. Et en même temps, il se sert de cette religion pour assassiner aussi des femmes, comme on pourrait le voir chez un tueur en série dans un film américain. Et puis cette femme journaliste Zahra Amir Brahimi, c'est la comédienne.
Donc elle a eu un prix à Cannes.
Elle a eu son prix.
Lui, il aurait mérité de l'avoir quand même.
Ouais, parce que lui, il est très très bon.
Alors, il est détestable, bien évidemment, mais c'est son rôle qui est détestable.
Mais en même temps, il est d'une simplicité dans son rôle.
C'est il est naturel, en fait.
C'est sur cette terreur qu'il impose à ses femmes, à ses meurtres qu'il fait avec une certaine régularité. Et elle arrive. Et le film nous montre aussi une différence dans en Iran. C'est pas un pays fermé, l'Iran. C'est pas un pays isolé. Ça fait plusieurs décennies que les gens voient arriver des touristes. Alors, certes, il y a un certain type de tourisme, mais ils rencontrent les hommes et les femmes en Iran, on rencontre d'autres personnes. Il y a aussi du commerce. Et puis, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui permettent encore plus à la population de pouvoir discuter avec l'extérieur. Donc, c'est pas un pays isolé, mais c'est aussi un pays en mouvement. Et donc, cette journaliste, elle vient de Téhéran, qui est une ville aussi qui est multiple. Ce qui n'est pas le cas de cette ville religieuse, dans laquelle il y a un conservatisme qui est très réel, de partout. Alors que Téhéran, certes, on a la police, certes, on a les chefs religieux, mais on peut avoir des petits moments de liberté. On sait qu'il y a des Iraniens, des Iraniennes qui vont picoler la nuit, vont se retrouver. Oui, les jeunes qui se rencontrent, s'aiment pendant quelques instants, et puis épousent quelqu'un d'autre.
Il y a une grosse arrestation
aussi.
Dans une fête là,
tout
très
à fait,
récemment.
Ouais.
Là.
Bon, on sait aussi que tout ça, c'est des affaires bien évidemment de classe, mais le pays ne bouge pas pareil de partout. C'est aussi ce que nous montre ce film, c'est-à-dire qu'elle arrive de Téhéran et elle sait ce qui l'attend, hein, tout à fait, mais elle s'en prend elle se prend quand même ça aussi dans la figure, c'est-à-dire qu'il y a cette violence faite aux femmes, cette police qui la violente elle-même aussi, et puis ces juges
religieux.
Le réalisateur dit que c'est du théâtre, la justice en Iran, que ça n'a pas de sens, puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous savez, vous pouvez soit avoir la peine de mort, soit une compensation.
Oui, si vous avez les moyens. Avec voilà. Si la famille accepte une compensation, vous êtes pas, vous perdez la condamnation
voilà.
à mort.
Donc c'est aussi une justice un peu.
Je crois que c'est parce que c'est une justice religieuse, hein, donc ça pose problème. Alors le film dénonce tout ça. La religion, c'est vraiment une catastrophe importante, hein, dans le pays, notamment pour les femmes. Mais ça montre aussi la corruption, hein, puisque il est soutenu. Ce serial killer, parce que il s'attaque à ces femmes de peu de vertu, hein, dans sa vision, et donc il y a une partie de la population, voire une grosse partie de la population, qui est avec lui, et du coup il se trouve avec des gens qui le soutiennent alors que c'est un assassin. On voit vraiment cette idée que les hommes sont supérieurs aux femmes, et que une femme qui se prostitue mérite juste la mort, ou une femme qui se drogue, et c'est normal que les hommes tuent des femmes.
Et le film, encore une fois, nous parle de la toxicomanie en Iran,
qui pour un pays
extrêmement fanatique dans sa religion, connaît une toxicomanie absolument dévorante. C'est assez terrible, hein, parce que c'est quand même des drogues qui sont fortes dans comment elles accaparent ces êtres humains et comment elles détruisent des familles entières.
Ouais, la loi de Téhéran, pour le coup, le film qui était sorti l'été dernier, c'était très impressionnant là-dessus. Donc voilà, c'est un beau film qui nous rappelle que la religion, c'est l'ennemi des femmes. Je pense qu'on en a un bel exemple. En tout cas, pour cette religion-là, ça marche, et puis ça marche pour pas mal d'autres. Et puis voilà, c'est aussi un divertissement quelque part, hein, ce film, hein, puisque ça reste un objet cinématographique, ce qui n'est pas un documentaire, c'est un objet fictionnel tiré de faits réels, et réimaginé, réécrit, et voilà, on a des combinaisons très très bien, des belles images, et c'est des fois très dur, hein, quand même, dans le film. Il y a des scènes, c'est pas facile.
On va parler de Shinzo Abe. Vous savez donc qu'il a été assassiné par Tetsuya Yamagami, un ancien employé de l'armée, hein, de cette armée d'autodéfense. Il n'y est pas resté très longtemps. Il a expliqué donc qu'il visait en fait un dirigeant d'une secte, la secte Moon, et qu'il pensait que Shinzo Abe avait mis en avant cette secte de l'église de l'unification, c'est comme ça que ça s'appelle en vrai, et que donc il a été assassiné avec un pistolet bricolé. On va revenir aussi sur cette question de l'arme, des armes au Japon. Alors, on a pu lire qu'il était un employé solitaire, isolé, sans histoire. Vous savez, ce petit loup qui abattrait des gens comme ça d'un coup. Alors, en fait, dans d'autres interviews, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un homme que ses voisins trouvaient sympathique, certes un peu timide, mais enfin bon, inséré dans la société, rien de spécial. Donc, il accusait en fait Shinzo Abe d'avoir plongé sa mère dans une détresse financière. Et on a donc les médias, évidemment japonais, on n'aurait pas fait mieux en France, je vous le dis tout de suite, hein, qui se sont mis sur cette affaire, évidemment, hein, ancien chef du Japon, Shinzo Abe ne méritait pas mieux qu'un traitement médiatique à sa hauteur. Alors on a eu des moyens absolument gigantesques, hein, matériels et humains, qui ont été déployés pour tenter de reconstituer la scène. On a eu même des plateau avec des maquettes, des trucs 3D, enfin tout est absolument disséqué. Il y a des hélicoptères qui sont envoyés aux quatre coins du pays pour essayer d'interviewer un maximum de gens, mais en même temps, alors je vous dis tout de suite, je ne lis pas le japonais, donc je me base sur ce que d'autres lisent, ont lu et peuvent me traduire dans ces quotidiens. Ce qui est tout de suite révélé aussi, ce qui apparaît assez flagrant, d'une manière assez flagrante, c'est que les principaux quotidiens au Japon ont publié un peu la même chose, et surtout, c'est une tradition au Japon, rapporte les propos de la police d'une manière assez systématique, et surtout, il y a eu une un jour qui a été exactement la même, mais c'était pas par un hommage, par vous voyez, quelque chose qui serait rendu en hommage. On fait tous la même une pour rendre hommage à notre chef. Non, c'est simplement qu'il y a à la fois une paresse et puis une obéissance quelque part à l'État, parce que cette presse, elle est accusée plein de choses finalement au Japon. Et c'est les shukan. Les shukan, c'est les tabloïds au Japon qui ont sorti les premiers les mots « secte Moon ». Église de l'unification, alors que les grands quotidiens ne voulaient absolument pas parler de cette secte. Alors il faut dire que au Japon, à côté de ça, les religions, quelles qu'elles soient, ont beaucoup d'importance. C'est la même chose quand on va en Corée. Tous les partis politiques ont un groupe religieux associé. Les politiques ont des églises associées. Alors, par exemple, les églises du Shinto ont largement imprégné la politique. On sait que la Suga Gakkai est très proche du PLD, par exemple, le parti conservateur. Donc, toutes ces églises sont extrêmement importantes et les médias sont assez liés finalement à tout ça. Et en particulier, cette presse traditionnelle, qui est plus vendue que chez nous. La presse papier, chez nous, ça fait longtemps qu'elle est morte. Alors, elle essaye de survivre sur Internet, mais elle reste très importante au Japon. Et donc, tout ça est très entremêlé. Et c'est aussi ce qui apparaît, ce qui est la manière dont tout ça est critiqué. La Soka Gakkai, c'est quand même un peu une secte, il faut le dire, et pourtant c'est quand même lié au PLD. Donc tout ça arrive d'une manière assez curieuse aussi pour parler de cet assassinat de Shinzo Abe. Si vous voulez lire un petit peu comment cette presse elle est construite aussi, vous pouvez lire Tokyo Vice de Jack Edelstein. Alors Jack Edelstein, il a intégré le service police-justice du Yomiuri Shubun, un gros quotidien de Tokyo. C'était en 93, alors il va s'intéresser lui dans cet ouvrage, Tokyo Vice en particulier, au Yakuza, mais ça nous raconte bien comment il est rentré, lui, en tant que blanc anglophone, qui parle le japonais, dans cette maison de presse, et comment tout ça est lié, se lie avec la police, et comment tout ça fonctionne. C'est assez bien expliqué, et puis bon, voilà, ça nous raconte plein de choses aussi sur les Yakuza. Alors, l'assassinat, il a été critiqué dans le monde entier, on a eu notre Emmanuel à nous, Monsieur Macron, qui a rendu hommage à un grand Premier ministre qui dédia sa vie à son pays, à l'équilibre du monde, très content. Joe Biden s'est dit stupéfait, choqué et profondément attristé, déjà, bon, voilà. Alors, du côté de la Chine et la Corée du Sud, dans lesquelles le Japon n'a pas ami-ami, historiquement, avec le Japon, il y a quand même eu, de la part du président chinois Xi Jinping, une petite phrase, quand même, pour dire qu'il était lui aussi profondément attristé par ce décès soudain. Du côté de Narendra Modi, du côté de l'Inde, donc, on s'est dit profondément bouleversé, que c'était un ami cher. On l'a entendu de certains, d'ailleurs ça a été le cas de Charles Michel, président du Conseil européen, qui s'est dit choqué, attristé par cette attaque lâche, et il a décrit Shinzo Abe comme un véritable ami, farouche défenseur de l'ordre multilatéral et des valeurs démocratiques. Du côté de la Russie, on dénonce un crime monstrueux et un acte de terrorisme. On sait que c'est pas du tout un acte de terrorisme. Pour Monsieur Poutine, c'est une perte irréparable. Et puis on a cette couverture, par exemple, du Times en noir et blanc avec Monsieur Shinzo Abe. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous verrez, c'est un hommage. Il y a rien. Mais c'est un hommage quand même assez marqué. On peut aussi noter que l'opéra de Sydney s'est illuminé en hommage à Shinzo Abe. Bon, pourtant, on connaissait un petit peu quand même maintenant. C'est pratique un peu brutale.
C'est quelqu'un d'extrême droite.
Oui, je vais y venir. je vais tout à fait y venir. Alors, c'est marrant parce que ce terme d'extrême droite, il est assez peu employé dans la presse actuellement. Pourtant, chez nous, c'est un homme d'extrême droite. Il n'y a pas à dire un nationaliste. On rappellera que, par exemple, alors je vais vous donner quelques exemples. Quand Monsieur Trump a été élu en 2016, 9 jours après l'élection de Monsieur Trump, c'est-à-dire que Monsieur Trump n'était pas encore investi, Shinzo Abe s'est rué aux États-Unis d'Amérique pour aller jouer au golf avec Monsieur Trump. Ça avait beaucoup marqué les esprits, parce qu'a priori, ils avaient noué des liens assez chaleureux, quand même, il faut le dire. On se souviendra aussi que, quand même, sous l'ère de Shinzo Abe, y a eu une reprise assez marquée de la peine de mort, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il y a une atteinte aux libertés de la presse, on dirait en France aussi, sauf que le Japon est passé entre 2010 et 2016, donc sous l'ère... ça a été le plus long à être en place, Monsieur Shinzo Abe. Il a fait 2 périodes de mandat. En tout cas, entre 2010 et 2016, le Japon est passé de la 11e à la 72e place dans le classement de Reporters sans frontières. C'est pas rien, ça, c'est une marque. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une proximité du pouvoir politique sur les médias. Donc c'est plus la proximité, vous allez me dire quand c'est sûr, hein, les médias, mais en tout cas on sent que quand même il y a une mainmise du gouvernement de Shinzo Abe sur un certain nombre de d'éditeurs et de journalistes. On pourrait parler évidemment de ce de Yasu Kuni, hein, vous savez, c'est ce sanctuaire Shinto de Tokyo dans lequel monsieur Shinzo Abe en 2013 s'était rendu. Erreur pour un certain nombre de japonais et japonaises, puisque c'est un lieu où on glorifie le Japon et à l'époque la Chine et la Corée du Sud n'avaient peu goûté cette balade de Shinzo Abe sur les tombes et le sanctuaire hein, donc de Yasu Kuni où on a des martyrs militaires.
C'est, imaginez le président allemand qui va sur la tombe d'Adolf Hitler, hein, ça revient exactement à ça. Hein.
Exactement.
Donc ça va très très
donc
loin.
Donc ça avait marqué hein, les esprits quand même, hein, même au Japon. Et puis il y a ce scandale de Moritomo Gakuen où là c'est sa femme, hein, parce qu'on aime bien mettre sa femme, comme nous on a Fillon avec sa femme, bah, là, il aimait bien aimer aussi de sa femme, qui était proche des dirigeants de Moritomo. Moritomo Gakuen, c'est un groupe d'enseignement scolaire qui vise la réaffirmation du caractère impérial du Japon. On retrouve très, très fortement. Et donc, il a Shinzo Abe, c'est ce qu'on dit, donc participer à la promotion et des facilités pour l'acquisition d'un terrain public pour une nouvelle école de ce groupe. C'est un peu voilà, hein, il faut bien, bon nous on a une ancienne ministre de la culture qui a promu un petit peu aussi des valeurs hein, dans des groupes scolaires qui sont aujourd'hui accusés d'être des groupes sectaires. Ben là-bas c'est un peu la même chose si vous voulez, mais c'est vrai que ça marque encore cette extrême droite. Shinzo Abe il est membre, il était membre hein, de l'Union politique Shinto du Shinseren. C'est le bras politique de l'association des sanctuaires Shinto. Donc là, l'idée, c'est de ramener le caractère national et civique de la religion shintoïste dans l'ère même du Japon. C'est-à-dire, c'est rendre un pays avec une religion et faire en sorte que religion et pays... nation soit liée. C'est aussi faire revenir hein, le caractère sacré de l'empereur, parce que là, il y a toujours un empereur. Mais il est mis de côté hein, quand même depuis 45. C'est d'ailleurs pour ça hein, que son gouvernement, en 2006, a fait voter des modifications dans la loi fondamentale pour l'éducation. L'idée, c'était d'y introduire l'enseignement du patriotisme, le salut du drapeau, ce qu'on appelle Inomaru, et le chant de l'hymne national, le Kimigayo, dans les écoles. Donc, Shinzo Abe, c'est un homme d'extrême droite, et pourtant, aujourd'hui, quand on lit la presse, c'est pas ce mot qui revient. C'est pas ces deux mots, en tout cas. On sait aussi qu'il était affilié au mouvement révisionniste Nippon Kaigi. C'est une organisation politique et religieuse radicale qui cherche encore une fois à rétablir le régime impérial et à effacer surtout toutes les traces des abus de ce fameux géril impérial, de ce régime impérial, excusez-moi, sur les périodes chinoises et coréennes. Le Nippon Kaigi est pas non plus un mouvement très ouvert, hein, c'est un mouvement extrêmement conservateur qui combat le féminisme, les droits des LGBT+, et la loi de 1999 sur l'égalité des sexes. Il faut quand même le faire, hein, ça, je veux dire, c'est quand même d'extrême droite, ça. Hein. D'ailleurs, la branche de Tokyo Nakano a organisé en 2013 une fête en l'honneur du gouvernement de Shinzo Abe pour son deuxième mandat, au cours duquel le drapeau impérial, vous savez, le drapeau impérial, c'est celui avec le soleil levant, hein. Ouais. C'est pas celui actuel, a été dressé, hein, le Kimigoyo a donc été chanté, et puis voilà, c'est quand même une cérémonie qui était particulièrement... honteuse, il faut bien le dire. Et puis, Shinzo Abe, il n'a pas non plus aidé beaucoup à faire reconnaître ce qui a été fait aux femmes de réconfort. Vous savez, ces femmes qui ont été violées...
Et prostituées de force par l'armée japonaise.
Voilà, par l'armée japonaise. Mais d'ailleurs, son conservatisme sur la question est souvent d'ailleurs montré comme du révisionnisme, a fait que au niveau international, hein, beaucoup de pays se sont saisis de cette question des femmes réconfort et ont fait un peu changer les choses. Alors, aux questions des armes à feu, on a vu donc cet homme assassiner Shinzo Abe avec une arme fabriquée. Quand la police a perquisitionné chez lui, ils ont trouvé un atelier. Il avait créé cette arme à feu, puisque les lois sur les armes à feu au Japon sont extrêmement sévères. Pour en obtenir une, Alors ça date, hein, c'est une législation qui date de 1958. D'abord, quand les Américains sont les États-Unis d'Amérique ont pris le Japon en 45, il y a une obligation de récupérer toutes les armes à feu.
Armements, ouais.
Et même tout ce qui pouvait être aussi les armes blanches, de vider tous les foyers de ces armes. Et en 58, il y a une législation extrêmement contraignante qui va apparaître. Et donc aujourd'hui, pour avoir une arme à feu, il faut passer un examen psychologique, votre casier judiciaire évidemment scruté. Il y a une enquête sur vous-même, hein, sur vos proches, les collègues de travail, enfin tout ce que tu peux faire, tes loisirs, pour donc pouvoir un jour avoir donc l'autorisation d'avoir un port d'armes. Et en plus de ça, il y a même une peu d'armurerie, c'est-à-dire qu'il y en a que 3 par département. Pour acheter une nouvelle cartouche, tu dois ramener les douilles utilisées. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses quand même prouver de ce que tu en as fait. Donc il y a pas beaucoup d'armes en circulation au Japon. C'est pas l'arme des yakuza. Hein, on n'est pas aux États-Unis d'Amérique, on n'est pas en Irlande dans toutes ces mafias qu'on pourrait nous présenter dans les films anglophones. Non, c'est vraiment pas un pays avec des armes à feu.
Même les flics sont peu armés.
Ouais,
au
tout
Japon.
À fait. Ils ont par contre des tonfas parce que la matraque c'est toujours pratique.
Ouais, voilà.
Il y a eu, je crois, la dernière, un mort et 4 blessés par arme à feu, ce qui est absolument ridicule. Il y a même une année, la plupart du temps, il n'y a pas du tout de décès. Quand on voit qu'en 2020, il y a eu 124 décès par jour aux États-Unis d'Amérique, on voit un petit peu quand même la différence quand même sur une telle législation. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça a aussi marqué les esprits au Japon parce que les armes à feu n'existent pas. Et puis je voulais revenir sur cette secte Moon, hein, dont la mère de cet assassin faisait effectivement partie, cette église de l'unification créée par un homme coréen qui s'est répandu à travers le monde absolument d'une manière conséquente. À un moment, il y a eu jusqu'à 3 millions de fidèles. On dit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup moins, en particulier parce que le créateur Moon est mort. Donc, il y aurait eu des rivalités. Hein. C'est sa femme aujourd'hui qui gère la secte. Il y aurait eu des rivalités qui font qu'il y aurait peut-être eu moins de fidèles à un moment. Vous savez, c'est connu surtout, cette secte Moon, pour ses énormes mariages dans les stades.
Dans
ça
les
vous
stands.
Parle. Hein. Et ben, il y en a même eu à Washington, un de ses mariages, hein, pour vous dire que l'église, elle est présente absolument de partout. On avait parlé en France dans les années 80 peut-être de lien entre le Front National et la secte Moon. Vous savez, c'est des choses qui se racontent. En tout cas, Son Myung-moon, il est mort en 2012. Donc lui, il disait qu'à 15 ans, il avait une vision de Jésus-Christ lui enjoignant de poursuivre sa mission afin que l'humanité parvienne à un stade de pureté sans péché. Et les péchés, c'était en particulier le communisme. Puisque lui il vient en fait de Corée du Nord, donc il a toujours voulu lutter contre le communisme, donc c'était une des missions, hein, de la secte, lutter contre le communisme. C'est aussi pour ça qu'il a pu s'installer tranquillement aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, cet homme qui a assassiné Shinzo Abe dit que sa mère a donné tout son argent à la secte.
Alors donc il a eu un événement familial fort, sa mère elle s'est fait exploiter, elle a été par la secte. Et par contre, il aurait pu se renseigner mieux parce que tout le monde savait que Shinzo Abe il était plutôt shintoïste.
Mais bon. Ouais, et puis surtout que la secte, avant même que les grands médias reprennent l'information, ont tout de suite dit Shinzo Abe n'a jamais été l'un de nos membres. Ouais. A fait une conférence de presse, très librement, hein, voilà, on s'est imaginé, donc la scientologie faire sa petite conférence de presse.
Bizarre.
Oui, non, mais voilà. Après, par contre, Shinzo Abe, il faut se souvenir que comme la secte Moon est extrêmement importante, il a fait partie des gens qui ont parfois fait des petites vidéos de soutien à la secte. L'église de l'unification. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il a fait malgré tout, donc ça gênait personne en fait que cette église elle puisse prospérer quand même au Japon. Donc il n'est pas si innocent non plus que ça. Et puis on va terminer par la grande rigolade quand même de cette affaire. J'ai nommé monsieur Damien Rieu qui nous fait même marrer, mais alors tous les 4 matins. Il est connu maintenant même au Japon.
Ouais, c'est une star internationale de la bêtise.
Ouais, et ben comme quoi hein, finalement hein, être raciste, hein, ça rend pas malin. Alors monsieur donc Damien Rieu, ce qui se passe. Sur sa page Twitter, si vous y allez, il y a marqué lanceur d'alerte en haut. Voilà. Hein. Non, ouais, je te jure. Alors, il a peut-être changé là dernièrement parce qu'il fait peut-être un peu beaucoup parler. Donc, ouais. Il a retweeté un tweet de Madame Autain qui disait Clémentine hein, Autain, qui rendait son petit hommage. J'apprends le décès de Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon. Je ne partageais strictement aucune de ses positions politiques, mais le crime commis est impardonnable. Pensée pour le peuple nippon. D'abord, bon.
C'est ridicule, mais bon.
C'est ridicule ce genre d'hommage. Il y en a eu plein à la toile. Il y a un moment, faut arrêter. C'est un mec d'extrême droite. Elle va faire quoi demain? Rendre hommage
à Le Pen?
À Le Pen? Non, ouais. Mais je vais dire. Les gens, faut qu'ils réfléchissent 2 secondes. Donc, Damien Rieu a répondu. Je rappelle, hein, candidat reconquête aux législatives dans les Alpes-Maritimes. Il est arrivé en 5e position. Donc, il a répondu. L'extrême gauche tue. Donc, déjà. Bon, voilà. Et il a mis trois photos supposées donc présenter cet assassin japonais. Et en fait, on voit sur les clichés, Hideo Kojima, homme extrêmement connu au Japon. Hein, créateur de jeux vidéo, d'un jeu vidéo extrêmement Metal Gear, qui est vendu
Un truc énorme.
Un million d'exemplaires à travers le monde.
Une des photos où il a un portrait du Che derrière lui, c'est pour ça qu'il a dit l'extrême gauche tue.
Ouais, alors il a une chapka aux couleurs de l'armée soviétique, parce que c'est un gars qui aime quand même rigoler. Hideo Kojima. Donc là-dessus, assez rapidement, monsieur Damien Rieu se rend compte qu'il a fait une boulette. Il a supprimé son tweet, sauf qu'il y a des petits malins et des petites malines qui tout de suite avaient fait des captures d'écran de ce fameux tweet. Et donc ça a pris une ampleur assez internationale, hein, comme nous vous le disions tout à l'heure. Et donc, d'ailleurs, il y a David Guiraud, de la France Insoumise, qui a dit ils sont vraiment bêtes les racistes, on est assez d'accord avec ça. Alors du coup Damien Rieu n'a pas inventé cette affaire puisque ça vient du compte de Georges Jordito, qui est un youtubeur d'extrême droite qui a travaillé pour Reconquête, pour Valeurs Actuelles et qui participe à Livre Noir. Donc autant vous dire qu'en termes d'extrême droite, il en a une petite couche quand même. En fait son vrai nom il s'appelle Georges Mataran. Il a donc Georges Jordito, de son nom de scène, fait un tweet. Alors maintenant il dit que c'était une vanne. Bon,
ouais,
on
n'a
pas bien compris
la
blague, mais voilà. Lui-même avait récupéré ça des comptes 4chan, donc ça veut dire qu'en fait...
Ouais, c'est les chaînes d'extrême droite, les forums d'extrême droite aux États-Unis d'Amérique.
Ouais, les 4chan, vous dites comme 4chan. Vous voulez. Voilà. Donc c'est d'abord un premier utilisateur qui a fait ça sur ce... On ne sait pas encore pourquoi, peut-être qu'un jour nous le serons.
Et puis comme les fachos ont pas de culture, il y a recopie, il y a rebalance sans se poser de questions et tout va bien.
Voilà, alors après il a fait donc un petit tweet en disant qu'il s'excusait auprès d'Hideo Kojima. Il faut dire qu'il a un peu menacé de vouloir l'attaquer en justice sur le coup. Et puis il explique qu'il a pris une blague pour une information. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire de l'humour sur l'assassinat d'un homme, mais j'ai une tort de ne pas le vérifier avant de partager. Voilà, maintenant c'est bien, les Japonais connaissent les racistes français, c'est magnifique. Et voilà, mais encore une fois, on trouve très peu le mot extrême droite donc sur Shinzo Abe dans la presse aujourd'hui, et en particulier dans Le Monde, je vous laisse lire les différents articles, et puis celui de Régis Arnaud, parce que c'est une petite pépite de conservatisme d'extrême droite.
Alors à 13h20 aujourd'hui, Emmanuel Macron, président de la République française, a remercié, je cite, « les héros dévoués pour la nation, à nos soldats, marins, aviateurs, à nos forces de police, de gendarmerie, à nos pompiers, à tous ces héros dévoués pour la nation, merci ». C'était dans un tweet à 13h20. On retrouve habituellement cette utilisation de la notion de héros par les libéraux du monde entier et par Macron particulièrement. Ce qui est très logique dans une société libérale, donc individualiste, les gens qui... font un truc pour le bien commun, c'est pas normal, c'est pas logique, donc ça devient des héros. Dans une démocratie directe, une autogestion, tout le monde participe au bien commun et donc la notion de héros n'existe plus. Mais elle est donc fondamentale et fortement liée au régime égoïste libéral que nous connaissons. Et on a quelques contre-exemples quand même, et je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Macron, d'abord sur les marins. Parce que d'après M. Macron, nos marins sont des héros. Moi, je me pose la question, mais ils sont où, nos marins, pour aider les migrants en Méditerranée? Si vous suivez un peu ce qui se passe sur cette mer, il y a quelques structures qui interviennent, notamment SOS Méditerranée. Alors, SOS Méditerranée, c'est pas les marins de Macron. C'est pas les gardes-côtes. C'est une structure citoyenne montée parce que l'État, dirigé par Macron, ne faisait rien et laissait crever les migrants en mer. Donc, il a bon dos, Macron, de parler des marins qui sont des héros, mais ses propres marins, fonctionnaires ou pas, ou appartenant à d'autres instances comme les gardes-côtes, tout ça, on les voit pas beaucoup sauver les migrants en difficulté. Il a fallu qu'il y ait des structures, des ONG qui fassent ce boulot-là. Donc ce sont pas des héros, ce sont juste des gens normaux qui laissent pas crever les autres êtres humains. Ça, Macron ne comprend pas. Et puis on va parler aussi de notre belle armée, puisqu'il a dit que nos soldats étaient des héros. Et justement, on va revenir sur une petite affaire qui n'est pas très glorieuse pour l'armée et qui est une info, du coup, donc on en parle puisqu'elle a quelques jours. Parce qu'on a appris que les juges d'instruction en charge du dossier Turquoise 1. Alors, Turquoise, c'est lié au génocide des Tutsis et au camp de réfugiés de Murambi. Donc, ces juges se sont fait remettre le 23 juin dernier, c'est tout récemment, une synthèse du rapport Duclerc qui avait été demandé le 3 juin dernier. Donc le rapport du CLER, hein, c'est un rapport officiel qui a mis en évidence la participation et les responsabilités politico-militaires françaises dans le génocide, alors avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide du Rwanda. Donc c'est une très bonne nouvelle. L'affaire est à multiples rebondissements puisque les partis civils attendaient depuis plus d'un an une réponse à leur question. Ils attendaient, ils avaient peur qu'il y ait un non-lieu prononcé contre les militaires et les responsables politiques. Et grâce à ce qu'ont fait les juges, ce qu'ont appris les juges, et de ce retour, de cette synthèse du rapport du CLER, va permettre normalement d'aller plus loin. Et on espère qu'aller plus loin, c'est une audition du général Christian Queneau, qui était dirigeant de l'état-major pour la question du Rwanda à cette époque-là, sous Mitterrand, et puis Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée durant le génocide des Tutsis, avec donc, comme on l'a vu, la participation active de la France avant, pendant et après le génocide, notamment avec l'opération Turquoise qui a permis d'évacuer des génocidaires. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle qu'on a appris. On verra ce qui va se passer, si la justice va jusqu'au bout. Je ne raconte pas tous les détails, mais on a une bonne nouvelle. Donc effectivement, Macron, il est fier de son armée, c'est son choix, mais moi j'en suis pas fier. On rappelle qu'il y a eu quelques petits meurtres et massacres au Mali, d'autres questions un peu moins glorieuses aussi sur l'armée française dans les différentes régions du monde, et puis bien sûr cette participation active au génocide rwandais. Donc bref, nous, comme tu l'as dit au début, nous les défilés, les militaires, les gens en armes, ça nous parle pas vraiment, c'est plutôt des gens qu'on n'apprécie pas beaucoup. Et puis il y a aussi le soutien aux policiers, aux gendarmes français traditionnels, de ces gens de droite ou d'extrême droite. Alors eux, bizarrement, ils oublient les violences policières, ils oublient la rave du Veldiv, ils oublient tout ça. Et justement, on va reparler des flics un petit peu. Puisqu'on a un film qui est sorti qui s'appelle La nuit du 12 de Dominique Moll, qui nous plonge au sein d'une enquête de la police judiciaire. Et qui... Dominique Moll ne montre pas des héros, il montre juste des gens qui font leur métier. Et ça, c'est un truc assez important. On a eu des films sur les flics et des films qui étaient quand même
pro-flics.
Pro-flics.
Arrête, je cherchais plus.
On se rappelle de Bac ou de choses comme ça.
Bac Nord.
On va chercher le nom entier. Bac Nord. Là, pas du tout. Dominique Moll, c'est un cinéaste talentueux. On se rappelle de son premier gros succès, Harry, un ami qui vous veut du bien, ou Seules les bêtes, qui est sorti il y a quelques années, qui était très très bon. Et ben Dominique Moll, il a l'intelligence de faire un film qui montre la police telle qu'elle est. D'ailleurs, des êtres humains qui font leur métier avec les galères qu'on a, parce que celui qui ramasse vos ordures, il a plein de galères, il a beaucoup plus de risques de mourir d'ailleurs qu'un flic, bizarrement, parce que lui, il est sur la route tous les jours. Donc voilà, il montre ça, et c'est l'intelligence du film, moi je trouve, de montrer des êtres humains. Alors certes, il y a une partie des flics qui sont hyper machistes, qui sont un petit peu racistes.
C'est bien son propos.
Il dénonce ça.
Dominique Moll, il nous fait pas un film sur les flics, il nous fait un film sur les hommes ont un problème avec les femmes, et donc il va se servir d'une enquête policière pour nous dire les hommes ont un problème avec les femmes. Les hommes ont un problème avec les femmes puisque le cœur de cette enquête, c'est une femme qui est brûlée vive par un homme, et donc c'est cet homme que va chercher que vont chercher ces policiers. C'est une femme battue, c'est une mère qui ne se remet pas de cet assassinat, et en particulier de la violence de cet assassinat. C'est la meilleure amie qui ne comprend pas. C'est ces hommes qui pourraient juger cette victime parce qu'elle aimait le baiser, elle aimait la sexualité, et qu'elle a eu plusieurs compagnons alors qu'elle est toute jeune et qu'elle s'amusait bien.
Du coup, laissant entendre, mais c'est pas un peu de sa faute ? C'est ça qui traîne derrière.
Donc en fait, le film parle de ça, et d'ailleurs, l'une des flics va le dire assez justement. C'est assez curieux que les principaux criminels soient des hommes, et que ça soit des hommes qui les recherchent et qui enquêtent. Cette espèce de boucle éternelle sur notre société patriarcale. Donc je pense pas que ce soit tant un film sur la police qu'un film
quand même
sur les femmes.
Alors, c'est les deux, en fait.
Je te renvoie à l'affiche. Sur l'affiche, ce sont pas des policiers qu'on voit, mais c'est bien la victime qui est dans cet élan course.
D'ailleurs, la bande-annonce met ça en avant, le rôle.
Je pense que c'est assez ça qui est important, parce qu'effectivement, Bastien Bouillon, qui joue le capitaine, Bully Lanners sont extrêmement bons dans ces rôles de flics bouffés par cette enquête. Mais voilà, c'est aussi cette flic qui arrive dans cette équipe qui dit je choisis la police judiciaire parce qu'au commissariat ils sont tellement racistes que c'est pas possible. Au moins dans la PJ ils sont un peu moins racistes, mais ils restent à 95% des bourrins. Donc il y a aussi cette dénonciation là et je trouve que Dominique Moll fait, moi je pense, davantage un film en se servant de cette prétexte, de cette enquête, de ces hommes qui sont effectivement abattus par cette enquête, par le fait qu'il y a des moments, il y a des enquêtes qui ne sont jamais résolues,
qui aboutissent pas,
mais pour aussi critiquer cette société patriarcale et en particulier les violences qui sont faites aux femmes.
Bah, on passe 100% du temps avec des flics. Il n'y a quasiment pas d'image sans les policiers, on est vraiment au cœur de l'enquête. Et il y a une phrase que j'avais beaucoup aimée qui était dite, qui disait « Elle n'a pas été tuée par un homme, cette femme, elle a été tuée par les hommes ». Parce qu'en fait, c'est la société qui fait que quand on a un souci avec une femme, on la tabasse ou on la brûle. Hein, voilà, il y a une sorte de réflexe de merde. Et cette phrase intelligente, elle est tuée par l'ensemble des hommes, en fait, quelque part.
Voilà, donc allez voir La Nuit du 12, allez voir Les Nuits de Machad, c'est tout ça aussi au cinéma.
Alors, du coup, dans la série des déconstructions des héros, on va déconstruire le mythe du super-héros. Avec une série qui sort sur un truc.
Ouais, tout de suite, on va dire, c'est pas une série alternative, ça sort sur Amazon Prime. Voilà, c'est du gros pognon, c'est plein d'argent. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est.
C'est tiré d'une vraie BD alternative
voilà,
des années 90.
C'est ce que j'allais dire, mais voilà, mais c'est vrai que c'est la troisième saison de The Boys qui a un succès phénoménal. Mais si on en parle, c'est parce que ça fait partie de cette série. Qui attaque le conservatisme aux États-Unis d'Amérique. Donc nous, ça peut nous faire marrer, mais c'est une réalité que vivent les Américains et les Américaines.
Alors, pour le coup, c'est pareil. Le machisme est ultra présent, hein, parce que.
Je vous rappelle que l'une des scènes premières de la saison 1, c'est le viol d'une femme.
Ouais.
Si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez vu,
par
l'homme poisson. Et vous avez oublié.
Voilà. Et donc c'est une série qui casse tout, hein, qui essaye de détruire les super-héros, mais finalement les autres sont pas mieux. En fait, c'est une série qui part vraiment dans tous les sens. Le but c'est de rien respecter. Hein, il y a cette volonté dans cette série de comics qu'a fait notamment Garth Ennis, hein, le scénariste. Il y avait l'idée de choquer, d'aller le plus loin possible. C'était des punks, en fait, du comics américain à l'époque. Alors certes, la version télévisée est un petit peu plus soft, mais à peine en fait, hein, parce que ça va très très loin. L'homme poisson, il fait l'amour avec sa pieuvre. Enfin,
incroyables. Ça peut nous faire rire, mais.
Mais c'est entre le rire et la dénonciation permanente du machisme et de l'extrême droite. Parce que.
On peut juste préciser, regardez, c'est pas ça avec les plus jeunes de vos enfants.
Non, c'est une série pour adultes.
C'est une série qui est extrêmement violente. Ça gicle, parfois c'est extrêmement violent et très dur. Parfois on peut rigoler du sang, mais parfois pas. C'est une série qui est assez violente sexuellement, au-delà du fait que les femmes sont extrêmement maltraitées.
Pour les femmes notamment, bah oui.
On a une homophobie qui est dénoncée continuellement, mais qui du coup est agressive. Hein. C'est difficile de supporter ça aussi. Voilà, donc c'est une série vraiment pour adultes.
Ouais. Après c'est une série qui dénonce le capitalisme, hein, puisque c'est le capitalisme qui gère ses super-héros. Il y a plein de choses dans... Et c'est en dehors de cette série qui a un fond politique fort... ça sort certes sur un truc commercial, mais voilà, en plus c'est bien fait, le scénario tient la route, les comédiens sont bons, il y a plein de références. Si vous aimez la musique, il y a 4 ou 5 morceaux par épisode, il y a des références sur les t-shirts de Oui, enfin voilà, il y a plein de trucs à voir dans cette série.
La crème aussi. En français, je vous lis le nom du personnage.
La crème, lui, c'est les t-shirts rap, et Oui, c'est les t-shirts plutôt rock des années 70, 80. Donc voilà, il y a plein de des trucs intéressants au premier, deuxième, troisième, cinquième degré. Voilà, c'est une série qui casse un peu le mythe et c'est autrement plus intelligent que n'importe quel Marvel en fait quelque part.
Alors, il faut dire que les Marvel sont pas extrêmement dans une dénonciation. Enfin, je veux dire, c'est du divertissement sans politique, les Marvel. Ouais. Alors, si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on trouve dans certains comics Marvel quand même des choses qui sont racontées, mais dans cette série qui nous sort avec un nouveau Thor et tout ça au cinéma, on est loin quand même d'avoir des dénonciations. Vraiment poussé de cette société américaine. Là, on a quand même quelque chose qui est copié-collé de ce que Trump a été, QAnon, des complotistes. On a vraiment quelque chose qui est réel, c'est-à-dire qu'on a un personnage secondaire blanc qui est un passionné de cette Homelander, hein, ce héros blanc raciste, homophobe, sexiste, qui détruit tout sur son passage et sans gêne, qui est donc créé et mis en place, hein, par cette société, cette multinationale Vought. Mais mais qui n'est là finalement que pour amuser la galerie en vrai, hein, parce qu'il est là pour occuper les esprits. Et donc ce personnage blanc secondaire, en fait, c'est un fan, parce qu'il représente aujourd'hui les admirateurs de Trump. Et on a vraiment un miroir de cette société actuelle aux États-Unis d'Amérique sur le racisme. Ça fait très très peur, parce qu'on voit que il y a ces critiques de ces blancs super-héros qui massacrent dans les quartiers les noirs, parce que c'est tellement beaucoup plus facile. Il y a un personnage, une femme lesbienne super-héros, mais finalement cette société capitaliste va s'en servir
pour gagner de l'argent.
De l'argent. On a la religion qui a été très présente dans les saisons précédentes, qu'il est un petit peu moins
sur celle-là.
Là. Et puis on a encore une fois les violences faites aux femmes. Alors il y a évidemment le tabassage, mais il y a le viol. Cette question-là revient constamment dans la série. Il y a peu de séries qui reviennent sur cette question-là d'une manière aussi brutale et aussi réelle. Et comment il y a un besoin d'émancipation des femmes, hein, chez certaines de ces super-héroïnes. Et puis, il y a une critique tout court, hein, de aussi ce héros, à quoi ça nous sert? Pourquoi on en veut? Pourquoi d'ailleurs on va avoir des Marvel? Pourquoi on lit leurs héros, leurs aventures dans les comics? Pourquoi tout ça? Et pourquoi la moitié des films n'ont plus aujourd'hui que des héros, des héroïnes en personnages principaux, avec très peu de scénarios autour? Et donc voilà, il y a toute cette critique à l'intérieur. Peut-être qu'il faut aussi se replonger effectivement dans le comics original.
Ah, moi je trouve que ça a divergé, donc
oui,
c'est pas grave. Les deux fonctionnent très très bien en fait. Et puis pour terminer avec cette notion de super-héros ou de héros qu'on détruit, je voulais revenir sur les dernières aventures de Lapineau, le héros de Lewis Trondheim, scénariste et dessinateur français de BD. Il a fait une BD qui s'appelle Partout Tatis, on dirait un Astérix et un Obélix, hein, puisque on voit Astérix et Obélix. Alors il y a pas Obélix dans il y a Obélix, mais il n'y a pas Astérix, puisque Astérix c'est Lapineau. C'est écrit en gros, attention, il y a un autocollant, ceci n'est pas un album d'Astérix. Alors lui, c'est pareil, Lewis Trondheim, il est fan, hein, comme beaucoup, hein, il a grandi avec Astérix et Obélix, et il transporte son héros Lapineau au pays, il y a une pirouette, hein, pour au pays d'Astérix Obélix, et on voit il casse complètement le mythe tout en le respectant. C'est assez drôle, que c'est l'intelligence de Trondheim. Il y a des scènes qui sont incroyables où il rencontre des Romains dans la forêt, avec il se balade avec Obélix, et il tape les Romains, sauf que tu vois les Romains par terre en sang et morts, et Lapineau il dit mais ils sont morts. Mais il dit on est en guerre. Et en fait, dans la BD Astérix, tu te rends compte, en fait, c'est tout édulcoré, tout ça. Et donc, il casse un peu tout le truc. Et il le fait ça très intelligemment, tout en respectant. Alors, une BD où il y a peu de femmes, hein, Astérix Obélix, c'est une BD où les femmes sont assez peu présentes. Elles ont des rôles secondaires. Mais c'est pas une BD machiste non plus, puisque, en fait, c'est un autre délire, bien évidemment. Mais voilà, je trouvais ça très très réussi, ces nouvelles aventures de Lapineau. Donc c'est le retour de Lapineau qui est à sa sixième version chez l'association. Voilà, c'est un délire. Alors si vous êtes fan et de Lapineau et de Astérix comme moi, Astérix Obélix, c'est juste du délire total.
Voilà. Lapineau, c'est à lire si vous n'avez jamais
lu. Tous les Lapineaux.
Ouais, tous, ouais. Avec les zombies, sans les zombies, voilà, avec...
un des plus grands scénaristes actuels de BD. Et là, il dessine, hein, dans les Lapineau. Donc, il s'en sort bien au dessin. On sait que c'était pas son truc au début. Donc, Partout Tatis, ça s'appelle, de Lewis Trondheim. Et ça casse un peu encore le héros. Les héros.
Eh ben, on va vous laisser sur
tu voulais pas
cette culture.
Faire
non, on fera la semaine prochaine.
Il n'y a personne, on peut déborder tout ça.
On peut déborder, tu crois?
Ah oui, j'en suis sûr.
Allez, je vais vous parler rapidement. Alors, vous savez qu'il y a The Event 2022 qui aura lieu le 9, 10 et 11 septembre.
Alors, c'est le truc où des fois, on voit des gens avec des t-shirts dans la rue, c'est un grand Z écrit Event à côté.
Ah voilà, c'est vert. L'année dernière, il y a eu une vente pour 10 millions en tout, entre les dons et les ventes de t-shirts. Un truc de complètement délirant. Je crois que 172 000 t-shirts avaient été vendus l'année dernière.
Ah, c'est pour ça qu'on croise des gens dans la
Donc,
rue.
Donc l'idée de ce rendez-vous, c'est quoi? C'est des streamers et streameuses qui se réunissent pour récupérer des dons pour une ONG, une association. L'année dernière, évidemment, il y avait l'histoire de Covid, donc ça avait été compliqué, bien évidemment, mais ça s'est tenu. Et donc, il y a eu... Enfin, en 2020, ça a été très compliqué. En 2021, moyens aussi, mais tout ça a quand même réussi à se tenir. C'est organisé à la base par deux streamers, hein, donc c'est des gens qui jouent aux vidéo et qui font des trucs en ligne et tout ça. Ouais, vous avez une petite idée, vous voyez.
Donc l'idée, c'est que
tu donnes de l'argent, mais en même temps une streameuse qui va, je sais pas, se mettre, qui va jouer peut-être, mais qui va aussi chanter une chanson, parce que voilà, on les met au défi de faire des choses, de sortir de leur rôle habituel, et donc en échange de ton don, tu as le droit à un petit sketch, à une chanson, à une partie en ligne de jeux vidéo. Enfin voilà, il y a des tas de petits échanges comme ça. Donc cette année, donc ça se passe en septembre, et il y a eu une grosse cacade. Ça a pas bien marché comme les deux organisateurs le souhaitaient. L'idée cette année, c'est qu'il y a une, donc comme tous les ans, hein, une organisation donc qui était choisie, Good Planet,
pour accueillir les dons.
Pour accueillir, donc qui allait recevoir les dons. Donc c'était l'organisation, vous savez, de celui qui prend des hélicoptères.
Yann Arthus Bertrand.
Exactement. Pour récupérer ses dons. Et puis tout très 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 vite, il y a eu de la critique. D'abord, Yann a eu, c'est ça, un mec qui fait des photos dans un hélicoptère, il y en a qu'on rappelait.
Ouais, mais c'est avant, il n'était pas écolo, il est devenu après.
Bon. C'est toujours bien de changer, mais il y a des gens qui ont aussi dit que c'est comme d'autres organisations, dites vous n'êtes pas proche de BNP Paribas, Total Energy et d'EDF, donc là ça a commencé aussi à faire tiquer. Ça pose un peu des soucis quand c'est ce genre de multinationales qui te servent de partenaire, hein, quand même, hein, pour parce que l'année 2022 là, c'est une ONG liée à l'écologie, oui, hein, et au climat, qui devait donc recevoir ses dons. Et puis très très vite, pour mon plus grand plaisir personnel, je dois le dire, est arrivé quelques critiques sur la biodynamie, puisque Good Planet est accusé donc très rapidement de faire la promotion de la biodynamie et donc par son extension de l'anthroposophie. Et alors là, ça part très très vite. Alors je dois le dire que, je vous le disais, hein, l'année dernière, des pépettes et des pépettes, 10 millions d'euros, hein, tout cumulé, entre les dons, les t-shirts et tout ça, c'est quand même absolument délirant. Donc là, on se retrouve face à une force de frappe sur un événement chaque année, et là il y a une force de frappe tout de suite sur internet, parce qu'avant les gens allaient sur un plateau de télé, chantaient des chansons et vous invitaient à donner des dons. Aujourd'hui vous avez donc ces streamers et ces streameuses qui vous invitent à donner des dons. C'est exactement la même chose, sauf que ça s'est déplacé. Donc il y a une force de frappe sur les réseaux sociaux, c'est parti en sucette, et il a bien fallu que du coup les organisateurs fassent demi-tour et abandonnent Good Planet. C'est donc ce qu'on a appris. Good Planet ne sera donc pas l'organisation qui va donc être bénéficiaire de vos dons cette année. À la place, il y a eu toute une ribambelle d'associations et d'organisations qui ont été proposées. Les internautes ont voté, et donc 5 organisations cette année vont recevoir les dons, puisque ce sont celles qui ont reçu le plus de voix qui ont été sélectionnées. Alors, pour vous dire rapidement, il y a Sea Shepherd, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, WWF, Time for the Planet, and the Sea Cleaners, si j'en oublie pas. Voilà, donc c'est à la place de la fondation Good Planet. Tant mieux. Mais c'est très intéressant aussi parce que cette force de frappe... ah oui, Yann Arthus Bertrand aussi, je peux vous le dire, il a été aussi critiqué pour ses liens avec la Coupe du Monde au Qatar, où il trouvait que c'était vachement bien, tout ça, tout ça. Donc voilà, puis bon, je sais pas si elle allait faire des photos en hélicoptère du haut, je sais pas. Enfin bon, tout ça c'est sorti. Hein, donc voilà, c'est toutes ces choses comme ça qui ont l'air d'avoir choqué quand même un peu les gens. Et alors, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas la biodynamie, ne connaissaient pas l'anthroposophie. Et grâce... à Good Planet, beaucoup de gens, et en particulier des gens jeunes, ouais, qui ne fréquentent que les réseaux sociaux et commerciaux, ont donc appris ce qu'était la biodynamie, et ils ont fait « Ah, horreur, comment ça ? Des pratiques sectaires ? Nous, on veut pas donner nos dons. » Alors, il y a déjà eu des streamers et des streameuses qui avaient fait savoir que parce que c'était cette ONG qui avait été choisie, ne voulaient pas participer à l'événement. Ce qui aussi a amené quand même un peu quelques questions chez les donateurs. Yeah. Et donatrice, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Et puis, donc pour moi, je trouve ça fantastique, c'est que cette force de frappe, elle a permis de faire connaître des pratiques sectaires auprès de personnes qui ne l'étaient pas. Et alors, par contre...
Et l'imbécilité qu'est la biodynamie.
Ouais, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi derrière les... je sais pas s'il n'y avait pas France Environnement qui était dans la liste au début, qui finalement n'est pas choisi, je crois. Parce qu'alors, du coup, les gens les ont questionnés, et en particulier, comme je vous ai raconté la dernière fois, cette masse de gens qui attaquent partout où on le peut la biodynamie avec des petits tweets assez... sympathique, parfois un peu plus agressif. Et ce qui était très intéressant, c'est que beaucoup de ces associations écolo et ONG ont fait comme s'ils ne savaient pas de quoi on parlait. C'est le cas de France Nature Environnement, par exemple, qui a fait des tweets en disant, quelqu'un demande, et vous en dites quoi à propos de la biodynamie ? puisque il y a des gens qui disent, attendez, France Nature Environnement, vous regroupez tout un tas d'associations, et l'une d'entre elles, elle pratique la biodynamie, qu'est-ce que vous en pensez? Donc plusieurs fois, ça revient hein, sur le fil du compte France Nature Environnement, et ça répond, bonne question, honnêtement, on est encore en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est un sujet, smile like he smart, oui, le mouvement de l'agribionomie est adhérent de FNE, de la France, donc France Nature Environnement, mais c'est une asso indépendance. France Nature Environnement ne travaille pas du tout sur la biodynamie. Ouh là là, alors là, je vous dis pas comment c'est parti en sucette, parce qu'on essaye de comprendre pourquoi c'est un sujet. On a été plusieurs à réagir sur, bah si c'est un sujet, la biodynamie et l'anthroposophie. Ça vous fait marrer en plus de ça? Parce que nous, on trouve pas ça drôle, les sectes en France. Donc vous allez retirer votre smiley, mon ami. Donc déjà, le fait de, bon, c'est pas nous, c'est les autres, on voit pas où est le problème. Bah, tu vas assumer, et ce qui est pas, c'est pas ce qu'a fait France Nature Environnement. Mais on en a trouvé d'autres, hein, d'ailleurs, des comme ça, hein, Time for the Planet, qui est donc dans la liste, a répondu un peu différemment. A répondu, comme on base toute notre action sur la science, et que celle-ci semble n'avoir jamais rien démontré dans le sens de la biodynamie, en l'état, il est impossible pour nous de la soutenir. Pour nos faux, notre projet est basé sur les travaux du GIEC et Jean Jouzel nous parle. Mais quelques tweets avant...
Ouais, parce que là, c'est bien ce qu'il dit.
Time for the Planet disait, dans un tweet beaucoup plus simple, en fait, personne ne sait ce que c'est dans notre équipe, et donc du coup, on n'a pas d'avis. Et là, on s'est dit, bah, enfin, mes amis, vous êtes pour la science. Justement, il faut combattre la fausse science, et la biodynamie, c'est bien une fausse science. Il faut s'ouvrir à la fausse science pour pouvoir aussi parler science. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont arrivées. Ils
grave,
ont le droit. Mais enfin, bon, je vais dire, il y a un moment, ça fait quand même un moment qu'on parle de l'anthroposophie en France, et de la biodynamie. Et donc, voilà, il y a eu comme ça des organisations qui se sont fait un peu taper sur les doigts, et France Nature Environnement, moi, je trouve, n'a pas été très propre hein, sur cette question. Mais après, on peut dire d'une manière générale, ça a permis aussi aux gens de débattre de toutes ces organisations, parce qu'on avait les Amis de la Terre, We Forest, Greenpeace, 1% for the Planet, Agir pour l'Environnement, Surf Rider, l'ASPAS, Bloom, enfin, Noé, la Fraise du Climat, Fondation pour la Nature et l'Homme. Et en fait, plein de gens ont critiqué une partie de ces organisations en disant, attends, WWF, hein, par exemple, s'est fait critiquer pour ses partenariats.
Ils ont été choisis, mais oui, souvent, ils ont des partenariats avec des grosses sociétés capitalistes.
Et ce qui est devenu aussi très intéressant derrière, c'est la manière dont Greenpeace a été attaqué par les pro-nucléaires. Et là, il y a eu, par contre, une fronde dans l'autre sens, c'est-à-dire s'il y a eu une fronde anti-biodynamie, il y a eu une fronde des pro-nucléaires qui s'est abattue contre Greenpeace et qui, je pense, les a fait dégringoler vraiment hein, dans le choix possible pour bénéficier de ces dons. C'est parce que là, on a eu une propagande pour dire, bah, attendez, c'est vraiment des salauds, de toute façon, ils croient pas au nucléaire, tout ça. Et donc, c'est là aussi, on a dû rentrer ceux et celles qui se battent contre le nucléaire en France et ailleurs, d'ailleurs, dans une fronde pour tenter d'abattre. Mais je dois bien
ça
vous dire...
Ça n'a pas marché, pour le coup.
On n'est pas fort. Non, mais moi, je m'en fiche que Greenpeace ou pas a été choisi et sélectionné. C'est juste que sur le combat du discours nucléaire, on n'est pas assez fort aujourd'hui, les anti-nucléaires. Ce serait bien qu'on arrive à se réveiller et à agir, parce que là, on est en train juste de se faire bouffer par des gens qui vous expliquent que c'est vachement bien, c'est vachement propre. Et quand vous leur posez la question de savoir s'ils mettent les déchets dans leur salon, ce que moi j'ai fait, là, ça devient très compliqué d'avoir une réponse. Voilà.
Voilà pour The Event, c'est comme ça qu'on dit, là.
Ouais.
Il est 20h08, donc on a dépassé un petit peu, parce qu'on avait encore un sujet à faire. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission spéciale photo, puisqu'on vous parlera des rencontres d'Arles. Ce sera notre émission annuelle sur la photo. Puis je vous rappelle qu'un chant des Canus, ça vaut toujours mieux qu'une Marseillaise. Donc allez-y, lâchez-vous ce soir.
Ouais, voilà, sortez le chant des Canus. Bonne soirée.
Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Bye bye.